Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Abdelaziz Bouteflika ne briguera pas un cinquième mandat en Algérie. Le président renonce, mais repousse dans le même temps l'élection présidentielle. Réaction et analyse de cette annonce dans un instant, nous serons à Alger.
Et puis nous irons ensuite à Londres, où l'heure de vérité a peut-être sonné pour le Brexit. Les députés doivent se prononcer ce soir, alors que la première ministre Theresa May a arraché un nouvel accord avec Bruxelles.
Quand la Chine et l'Indonésie, Singapour interdit les Boeing 737 Max dans son espace aérien. Deux jours après un crash en Éthiopie, les États-Unis, eux, réitèrent leur confiance envers le constructeur, vous l'entendrez.
Dans cette édition aussi, vous nous expliquerez pourquoi Emmanuel Macron saisira le Conseil constitutionnel sur la loi dite anti-casseurs. Aujourd'hui, le Sénat, Clara, doit la valider définitivement.
Quand François Ruffin disrupte l'opposition, voici le titre du billet politique de Frédéric Seyss. Nous le retrouverons dans un quart d'heure. La société civile algérienne vient de gagner une bataille, mais le chemin reste long. Elle s'est endormie hier soir au son des klaxons de scènes de liesse. Elle se réveille ce matin pleine de doutes. La population a célébré hier l'annonce du président Abdelaziz Bouteflika. Il ne sera pas candidat pour un cinquième mandat après 20 ans à la tête du pays. Il annonce dans le même temps que la présidentielle qui devait se tenir le 18 avril prochain est reportée. Aucune autre date n'est pour l'instant actée. Le président algérien veut avant cela qu'une nouvelle constitution soit soumise à référendum. Le début de la fin peut être fêté donc dès hier dans les rues d'Alger par des centaines de personnes.
On est content, oui, on est content. Mais personnellement, si je peux dire un truc, c'est que je ne crois pas trop à tout ça. Je pense que tout ça, c'est juste une pièce théâtrale politique. C'est juste si toujours, ça tombe toujours dans leurs intérêts, parce que c'est pas normal. Juste comme ça, ils se retirent. Enfin, on a réclamé le départ de Bouteflika, c'est vrai, il est parti, mais pas son clan. Donc on n'est pas vraiment satisfait à 100%. On espère toujours du bien pour notre pays et pour notre peuple, voilà.
Comment ça? Les autres, ils ne sont pas virés? Ils doivent tous partir. Les hommes de l'ombre qu'on ne connaît pas, nous devons leur demander des comptes pour ce qu'ils ont fait pendant ces 10, 15 dernières années. Le président ne savait pas ce qu'il se passait. Ils l'ont utilisé. Alors que nous, nous allons en prison pour la moindre petite chose. Eux aussi doivent rendre des comptes.
Bonjour Leïla Berato.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Alger. Vous avez recueilli ces témoignages que l'on vient d'entendre entre joie et prudence, scepticisme même. Car Leïla, Abdelaziz Bouteflika renonce à un cinquième mandat, mais il fera un intérim. Il l'a écrit dans une lettre publiée hier par les médias officiels.
L'élection du 18 avril est annulée. À la fin du mandat actuel d'Abdelaziz Bouteflika, le président promet qu'il y aura un gouvernement pour gérer les affaires du pays et en parallèle une conférence nationale pour préparer la transition. Ce travail devra se terminer avant la fin de l'année, ce qui permettra ensuite d'organiser une élection présidentielle. Mais le président ne dit rien sur son départ. Certes, il n'est plus question de cinquième mandat, mais les propositions de cette lettre sont similaires à celles faites lors du dépôt de candidature du président le 3 mars dernier. La différence, c'est que cette fois, en annulant l'élection, le président supprime la condition qui était celle de sa réélection. La proposition qui n'entre pas dans le cadre de ce qui est prévu par la constitution algérienne, mais surtout pour les Algériens, il faut du changement à la tête de l'État. Or, nommer Noureddine Bédoui et Ramtane Lamamra à la tête du nouveau gouvernement, eh bien, c'est plutôt un signe de continuité.
Alors, vous évoquiez, Leïla, une transition avant une nouvelle élection présidentielle, la mise en place pour cela d'une conférence nationale inclusive et indépendante. L'opposition, a priori, devrait y participer. Et je vous propose d'écouter Akram Belkaïd, spécialiste de l'Algérie, essayiste. Au téléphone de Nabila Hamel, il s'interroge sur l'avenir du mouvement de contestation.
Cette conférence inclusive va être ouverte à l'opposition. Quid de la société civile? Quid de ces personnalités qu'on voit apparaître, qu'on connaissait pas du tout, en tout cas que très peu d'Algériens connaissaient? Je pense notamment aux bâtonniers d'Alger, je pense notamment au président de l'Ordre des avocats, des médecins, etc. C'est toutes les questions qui vont se poser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Une chose est certaine, l'Algérie rentre dans une phase assez... je dirais délicate et importante en termes d'évolution politique, parce que je ne pense pas que les forces qui ont été libérées depuis le 22 février dernier puissent s'estomper aussi rapidement.
Voilà des doutes, des questionnements autour de cette transition politique annoncée. Nous vous retrouvons depuis Alger, Leïla Berato. Leïla, une organisation de cette contestation populaire est-elle envisagée, est-elle même possible dans les mois à venir ?
Alors Abdelaziz Bouteflika n'a pas parlé de son départ et ça les Algériens l'ont bien entendu. C'est ce qui explique que l'on trouve désormais sur les réseaux sociaux un mot d'ordre de contestation du quatrième mandat et demi ou du mandat 4+. Dès hier dans la soirée, de nouveaux appels à manifester ont été lancés. D'abord pour aujourd'hui pour les étudiants mais aussi pour jeudi et pour vendredi pour toute la population. Donc oui, je pense qu'une organisation de cette contestation va évoluer. En tout cas, le test ce sera ce vendredi puisque il est possible que de nombreux Algériens manifestent comme les semaines passées.
Merci Leïla Berato, vous êtes notre correspondante à Alger. Sachez par ailleurs que la France salue déjà la décision du président algérien qui prend, selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, des mesures pour rénover le système politique algérien. Abdelaziz Bouteflika, une vie au pouvoir, c'est un article fait d'archives à retrouver sur notre site internet franceculture.fr dès ce matin. Nous rejoignons maintenant notre correspondant Outre-Manche à Londres pour la deuxième grosse actualité de ce mardi matin. Londres et Bruxelles ont légèrement modifié l'accord sur le Brexit. La première ministre britannique Theresa May a obtenu tard hier soir des garanties sur la frontière irlandaise. Il s'agit d'un délai d'un an supplémentaire pour trouver des solutions technologiques destinées à éviter la reconstruction de barbelés, de postes de douane entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Le texte sera soumis au vote des députés britanniques cet après-midi. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Le Parlement britannique attend l'opinion juridique du procureur général du pays et ce dernier pourrait faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, Antoine.
Absolument, même si pour la majorité des Britanniques c'est un inconnu, ou presque, Geoffrey Cox joue désormais un rôle central. C'est sur ses épaules que repose l'avenir du Brexit. Le procureur général du Royaume-Uni est censé donner un avis juridique sur le texte présenté par Theresa May. S'il estime, comme au mois de janvier, que l'accord négocié entre Londres et Bruxelles représente un piège pour le pays, le texte risque d'être rejeté à une très large majorité. Mais s'il valide les changements annoncés hier soir, les députés eurosceptiques rebelles qui s'opposent depuis des mois au gouvernement peuvent potentiellement déposer les armes. Pour l'instant, les parlementaires restent très divisés. Chez les conservateurs, Jacob Rees-Mogg salue le pas en avant de la première ministre. Damien Collins considère à l'inverse que rien n'a changé. Chez les travaillistes, Jeremy Corbyn parle d'échec total des négociations, tout comme les libéraux démocrates qui réclament un second référendum. Les députés unionistes nord-irlandais, eux, affirment qu'ils vont étudier l'accord de Theresa May de manière très très approfondie. Plusieurs élus demandent même un délai de 24 heures avant le vote pour réfléchir.
Il est pourtant difficile d'imaginer que la procédure soit décalée puisque le vote prévu ce soir, Antoine, n'est que le premier d'une longue série.
Oui, c'est un vote qui peut en déclencher un autre, puis un deuxième. En cas de défaite du gouvernement ce soir, les députés sont censés dès demain examiner deux scénarios. Ils doivent d'abord voter pour dire s'ils écartent ou non la possibilité d'une sortie sans accord, avant de se prononcer jeudi pour ou contre un report du Brexit. On peut donc imaginer que Theresa May soit battue ce soir, mais moins sévèrement qu'au mois de janvier, et qu'un report de la sortie de l'Union européenne entraîne de nouvelles négociations. Report qui ne pourra de toute façon pas excéder quelques semaines, avec comme date butoir les élections européennes à la fin du mois de mai.
Antoine Gignot, merci beaucoup depuis Londres ce matin pour France Culture. L'état d'alerte au Venezuela, sur demande de l'opposant Juan Guaido, l'Assemblée nationale l'a adopté hier soir. Cela doit permettre de faciliter l'entrée de l'aide internationale dans le pays. Par ailleurs, au Venezuela, toujours, les écoles et les services publics ne rouvriront pas aujourd'hui. Décision cette fois du gouvernement après 4 jours passés sans électricité. Ce matin également, Washington annonce retirer tout son personnel diplomatique encore présent dans son ambassade à Caracas. Les États-Unis qui exigent que le constructeur américain Boeing améliore les logiciels et le système de contrôle embarqué dans ses appareils 737 Max. C'est ce type de Boeing qui s'est écrasé dimanche en Éthiopie. 157 personnes sont mortes. La Chine, l'Indonésie, Singapour et 19 compagnies aériennes ont décidé de clouer tous ces appareils au sol le temps de l'enquête. Mais ce ne sera pas le cas aux États-Unis, Grégory Phillips.
La compagnie Southwest compte dans sa flotte 31 de ses appareils, American Airlines 24. Dès dimanche soir, les deux compagnies ont redit leur confiance dans le constructeur et hier, la FAA, l'Agence fédérale de l'aviation, est allée dans le même sens. Inutile pour l'instant de clouer ses appareils au sol. Le régulateur américain demandait au moins au constructeur d'apporter d'ici un mois des modifications sur les logiciels qui se trouvent à bord du cockpit, notamment les systèmes conçus pour éviter le décrochage de ces avions. Mais pour le régulateur américain du transport aérien, il n'est pour l'instant pas question de remettre en cause la fiabilité de cet appareil. Il faut dire aussi que l'enjeu économique est énorme. 350 avions déjà en circulation, 5000 commandes à 120 millions de dollars l'unité, le 737 MAX, moins de 2 ans après sa commercialisation, est déjà l'avion de ligne le plus vendu au monde. Ceci n'empêche pas le syndicat des pilotes américains de s'interroger. 2 accidents du même type en moins de 5 mois sur le même appareil. Normalement, ce genre de choses n'arrive pas.
Hier soir, l'action Boeing perdait 5% à la bourse de New York. En Éthiopie, pendant ce temps, 2 jours après le crash, une partie de la population est toujours en deuil. Hier matin, les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. L'Éthiopie, où, hasard du calendrier, Emmanuel Macron est arrivé hier soir. Il doit débuter sa visite par celle du site historique de Lalibela, célèbre pour ses églises enterrées du XIIIe siècle, taillées dans la roche. Le président français rencontrera le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, au pouvoir depuis presque 1 an maintenant. Un homme qui jouit d'une grande popularité depuis qu'il a fait la paix avec l'Érythrée voisine, depuis aussi qu'il a libéré tous les opposants politiques qui avaient été emprisonnés sous l'ancien gouvernement. Valérie Crova, de retour d'Éthiopie, l'a constaté.
Dans les locaux de son journal en ligne, Abel Wabella revit. Cet ancien blogueur a fait 18 mois de prison pour terrorisme, un prétexte pour les autorités de l'époque afin de faire taire toutes les voix dissonantes. Alors quand le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé une amnistie pour tous les dissidents, Abel n'en a pas cru ses oreilles.
Quand il a fait sa première apparition au Parlement, il a demandé pardon aux gens comme nous qui se sont fait torturer, emprisonner ou qui ont dû choisir l'exil. C'est un miracle, ça va au-delà de nos espoirs.
Avant d'être désigné Premier ministre, Abiy Ahmed a dirigé l'Agence éthiopienne de sécurité, l'un des organes de surveillance du pays. C'est un homme du système qui tente aujourd'hui de le réformer. Asna Kefale enseigne les sciences politiques à l'université d'Addis Abeba.
Depuis qu'il a été nommé Premier ministre, Abiy Ahmed a été capable de gagner beaucoup de soutien, non seulement dans le pays, mais aussi de la part de la diaspora, des puissances occidentales. Il est très populaire pour le moment.
Une popularité que viennent entacher des conflits intercommunautaires. Ils ont conduit plus de 3 millions de personnes à quitter leur région dans le sud et l'est de l'Éthiopie.
Valérie Crova.
8h13 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal dans les matins. Medine Emouch est condamné à la réclusion à perpétuité.
Oui, pour les 4 assassinats terroristes commis en 2014 au musée juif de Bruxelles, une condamnation conforme aux réquisitions de l'avocat général. L'intéressé Medine Emouch, qui n'a donné aucune explication en 9 semaines d'audience, a écouté le verdict impassible hier soir. Le patron de l'Assemblée nationale écrit aux députés, Richard Ferrand veut rénover la vie parlementaire et il propose une seule séance de questions au gouvernement plutôt que 2. Il souhaite aussi renforcer le droit de pétition en France et trouver ainsi un seuil à partir duquel une pétition donnerait automatiquement lieu à un débat dans l'hémicycle. Les députés de l'Assemblée nationale qui, en ce mois de mars, ne vont pas réexaminer la loi dite anti-casseurs. Pas de seconde lecture donc, car le Sénat, à majorité de droite, s'apprête à voter le texte sans aucune modification. Une manière de piéger en quelque sorte les députés de la majorité La République En Marche. Eux souhaitaient réécrire la loi en seconde lecture. Les dérangeait notamment le pouvoir accordé au préfet pour interdire de manifestation certains individus. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donc déjà prévenu, sur cette loi, il va saisir le Conseil constitutionnel, Stéphane Robert.
Cette loi anti-casseurs, à l'origine, Emmanuel Macron n'en voulait pas. Elle était proposée par la droite sénatoriale. Et puis, il y avait ce risque d'inconstitutionnalité, notamment sur le droit d'interdire de manifester accordé au préfet, risque que confirme le professeur de droit public à l'Université de Lille, Jean-Philippe de Rosier.
Selon moi, il y a un risque d'inconstitutionnalité. Le préfet peut interdire de participer à toute manifestation sur le territoire national pendant un délai n'excédant pas 1 mois, mais qui peut être renouvelable. Et cela me paraît disproportionnée et non nécessaire.
Malgré cela, le président a vu à travers cette loi l'opportunité de répondre à la crise des Gilets jaunes et de séduire une partie de l'électorat de droite en vue des élections européennes, ce qui du coup a divisé sa majorité à l'Assemblée. Une cinquantaine de députés En Marche se sont abstenus lors du vote en première lecture, députés qui dès lors attendaient le retour du texte en seconde lecture afin de l'amender. Mais c'était sans compter la malice des sénateurs qui ont vu, eux, l'opportunité de piéger les marcheurs en ne changeant pas une virgule à ce projet de loi. Tout ça a conduit aujourd'hui le président à saisir le Conseil constitutionnel avec, en cas d'invalidation, la possibilité de déclencher une nouvelle délibération.
Une nouvelle délibération, ça signifie que l'on reprend tout le processus de la navette législative. On repart comme si c'était un texte qui était initialement déposé sur le bureau de l'une ou l'autre des assemblées. Et à ce moment-là, effectivement, sa majorité pourrait réécrire la loi dans une forme plus conforme à la Constitution.
Avant cela, c'est bien sûr au Conseil des Sages de se prononcer. Conseil des Sages dont 3 des 9 membres prennent leur fonction aujourd'hui même et dont fait désormais partie Alain Juppé.
Le web fête aujourd'hui ses 30 ans. Son inventeur, le Britannique Tim Berners-Lee, avait imaginé un système de gestion de l'information le 12 mars 1989. Une invention du web sans tambour ni trompette, c'est évidemment un article à lire sur notre site franceculture.fr. Une perturbation pluvieuse arrive ce matin par les côtes normandes et bretonnes. Partout ailleurs, le temps s'annonce calme, entre nuages et éclaircies. Comptez 5 degrés ce matin à Besançon, 7 à Paris et à Lille, 9 degrés à Bordeaux, 13 à Nice.